Sortie de boîte. Sortie de boîte, Alizée Lichty.
Je suis à La Chaux-de-Fonds, dans les Hauts-de-la-Ville. 13h50, j'ai 10 minutes d'avance. Je tente d'entrer dans la fabrique dans laquelle j'ai rendez-vous, en vain. J'aurais dû m'en douter, une marque qui travaille dans l'horlogerie est forcément calibrée à l'heure. Quelques minutes s'écoulent avant que j'entre dans le bâtiment. La secrétaire m'emmène dans une salle de conférence. Ça sent le cuir autour de moi, sur des étagères, des bracelets de montres, des porte-monnaies et autres étuis fabriqués justement grâce à cette matière première. Quelques minutes plus tard, mon invité ouvre la porte. Ma première impression, c'est de la surprise. Je ne m'attendais pas à rencontrer un interlocuteur si jeune. Il a la trentaine, porte des lunettes et est vêtu d'une tenue décontractée. J'aperçois immédiatement à son poignet un bracelet bleu bien visible. Je me dis que ça lui colle à la peau. Au revoir le cuir et bonjour le caoutchouc. C'est en tout cas le pari qu'il s'est lancé en 2016. Il aime la musique, il aime regarder des films et se promener dans les vernissages. David Van Outeghem, bonsoir.
Bonsoir Alizée.
David Van Outeghem, vous êtes le directeur de la marque New Moon. New Moon, ce sont des bracelets adaptables pour montres. Je parlais dans l'introduction de ce que vous portez autour du poignet. Un bracelet en caoutchouc, a priori, ça n'a pas l'impression d'être révolutionnaire, mais vous dites que oui.
Je ne dis pas que oui, je pense que ça l'est dans un sens, parce que on a pu déposer un brevet, donc déjà ça, je pense que ça a été quelque chose où ça valide le fait que c'est quelque chose de nouveau. Et on a voulu repenser les systèmes de fermeture, étant donné qu'on a toujours été dans le bracelet de montre. C'était une volonté, un pari en fait, de pouvoir arriver à développer quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle expérience dans les mains.
Personne n'y avait pensé avant vous ?
Sur des manières détourées, on va dire, ou pour d'autres types d'accessoires, mais pas de cette manière-là, avec ce système d'accroche-là, étant donné que notre brevet est déposé en tant que dispositif de fermeture et non seulement limité au bracelet de montre.
Le bracelet que vous proposez est en caoutchouc. Pourquoi avoir choisi cette matière et pas une matière plus naturelle ?
Alors, il y a énormément de caoutchoucs qui sont aujourd'hui sur le marché, et des plastiques. On a beaucoup tergiversé et regardé en fait les avantages et les désavantages de chaque matière. Et on s'est rendu compte que cette matière-là est une matière qui est exceptionnelle en termes de durabilité. Et pour ce bracelet, il est impératif que cette matière dure dans le temps et qu'elle ne s'assouplisse pas après 2, 3, voire 5 ans. Donc qu'on ne risque pas de perdre sa montre. Donc on a vraiment été dans le top au niveau des caoutchoucs.
C'est une matière moins noble que le cuir, mais est-ce que c'est résistant ?
C'est très résistant. Alors, on a fait tous les tests possibles et inimaginaux. Et même moi, j'en suis assez estomaqué du fait que ça tienne à ce point bien. On a fait des tests où on a ouvert, fermé le bracelet plus de 10 000 fois, où on a fait des tests d'accumulation sur 10 ans. Donc, ça veut dire qu'en 2 semaines, en labo, on fait des tests qui représentent la durée de vie d'un bracelet de 10 ans. Donc, on lui fait subir les pires choses du monde et ils ont tenu.
Et puis même, vous-même, et peut-être avec d'autres collègues, vous portez ces bracelets jour et nuit, sous la douche, pour vraiment être sûr à 100%.
Ah ben, faut les tester, c'est sûr. Parce que sinon, c'est les tests les plus importants aussi, les tests aux portées.
New Moon est une marque qui appartient à Brasport. Alors, si chez Brasport, on fabrique des bracelets en cuir pour les grandes marques horlogères, chez New Moon, on innove, mais toujours dans le registre du bracelet de montre. David Van Outeghem, vous nous décrivez ce que vous portez au poignet.
Sortie de boîte.
Alors, c'est des bracelets qui n'ont donc pas de boucle et pas de passante. On a voulu un peu, vu qu'on est toujours nous dans le bracelet et pas vraiment dans la boîte, repenser un peu tout ce qu'était système de fermeture. Donc essayer d'innover là-dedans, d'avoir quelque chose qui est plus une expérience, donc quelque chose de nouveau, et quelque chose qui est très confortable, très ergonomique aux portées, quelque chose justement qui n'a jamais été vu avant.
Donc là, si on veut en mettre un au poignet, ça se passe comment ?
Alors, donc la montre, elle se clipe, donc il est adapté aux Apple Watch et puis il y a toutes les montres à barrette. C'est vrai qu'on couvre aujourd'hui avec les tailles qu'on propose, je pense environ 60% des montres qu'il y a sur le marché. Et pour fermer le bracelet, donc là ça se complique un petit peu parce que c'est vrai que les gens ont l'habitude d'une boucle classique, donc on doit un peu montrer et puis éduquer les gens sur ce nouveau système de fermeture. Donc le but, c'est d'imbriquer en fait les parties mâles avec les parties femelles comme un velcro en fait. Et c'est des protubérances qui se mettent dans des trous Et une fois que c'est complètement aligné et fermé ensemble, ben, le système d'accroche est fonctionnel et on risque pas de perdre sa montre. Donc on peut et designer la forme des boutons, donc on peut voir des losanges, des ronds, des carrés, ou même avoir une lignée centrale qui est complètement différente, donc plus large que celles qui sont sur le côté. Et en fait, une fois qu'elles sont assemblées, ben, on les voit plus. Et puis dessus, on crée justement ce qu'on veut. On peut faire toutes les formes et tout ce qu'on veut.
Les matériaux, c'est quoi ?
Alors, c'est du FKM, c'est un caoutchouc hyper haut de gamme. Donc normalement, on trouve seulement ce type de caoutchouc sur les montres très très chères. Ça coûte environ 15 fois le prix du PU ou du silicone. Par contre, c'est une matière qui est ultra résistante et qui avait été développée pour l'industrie spatiale et qui a des propriétés qui permettent de résister à des conditions extrêmes, à du froid extrême, à des températures très très chaudes. C'est une matière qui résiste hyper bien dans le temps, et aussi qui est tellement dense que la couleur ne se dégrade pas avec le temps. Donc se dire que si on achète un bracelet blanc aujourd'hui, le problème avec les bracelets PU, c'est qu'après 6 mois, ils sont jaunes. Avec le FKM, le bracelet, il restera blanc à vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui perdure, et c'était aussi pour nous une volonté d'avoir quelque chose d'extrêmement qualitatif et qui tient dans le temps avec ce système qu'on a développé, parce que si ça se détend ou bien qu'on a des picots qui cassent, ben les gens risqueraient de perdre leur montre, ce qui pour nous serait quand même un énorme problème.
Sortie de boîte.
Cet entretien a été réalisé par Joël Picromain, de retour dans nos studios. David Vanouteghem, comment une entreprise spécialisée dans le cuir a pu réaliser un virage à 180 degrés vers le caoutchouc ?
Alors, je pense que c'est aussi une volonté du groupe de d'étendre ses activités et de se diversifier avec le temps. C'est vrai que le groupe, pendant très longtemps, a toujours fait du cuir, des accessoires cuir, de la maroquinerie. Et avec le temps, on a commencé à faire des inserts, donc on a rajouté un atelier de micromécanique dans le groupe pour pouvoir être plus réactif et développer des bracelets qui deviennent de plus en plus complexes. Et aussi, une autre diversification qu'on a fait, c'était d'inclure aussi du caoutchouc dans le groupe. Donc on peut aujourd'hui proposer à nos clients des bracelets en caoutchouc. Donc Brasport ne fait plus exclusivement que du cuir. Et je pense que c'est des tendances qui vont avec le temps, où on trouve de plus en plus de bracelets compliqués, des bracelets avec des bimatières, donc on peut retrouver FKM et cuir sur le même bracelet. Donc c'est une stratégie globale.
C'est pour ça que vous avez déposé le brevet dans 152 pays ?
Donc le brevet a été en fait déposé d'abord en Suisse, parce que c'est la procédure, et ensuite on a fait ce qu'on appelle une procédure PCT, ce qui fait que on bloque le produit dans 152 pays pendant une durée de 18 mois. Donc ça nous permet en fait de voir sur le marché qui c'est qui est intéressé et où c'est qu'on devra finalement le rebloquer après 18 mois. Donc si tout d'un coup on voit que certains pays sont plus intéressés en termes de marché ou en termes de développement, c'est ces marchés qu'on va aller bloquer par la suite.
Et puis là, on en est où dans cette situation de blocage ?
Donc ce sera, si mes souvenirs sont bons, en février ou mars prochain, on devra prendre une décision pour aller de l'avant et puis bloquer les pays qu'on a décidés.
Vous savez déjà quels pays sont intéressés ?
De toute façon, c'est sûr, il y aura les États-Unis, il y aura l'Europe avec la Convention de Madrid, donc ça c'est assez simple vu que ça regroupe un peu tous les pays. Et on est en train de regarder pour certains pays aussi asiatiques.
Vos bracelets sont fabriqués justement en Asie, vous parlez d'Asie. Ce n'était pas un souhait de posséder le Swiss Made ?
À la base, je pense qu'on a tout fait pour avoir le Swiss Made. Donc, je vous cache pas que les premières versions des bracelets étaient entièrement fabriquées en Suisse, mais lors de notre Kickstarter, quand on avait lancé le bracelet auprès du public pour un peu prendre la température, on avait remarqué que le prix était quand même un peu élevé. Et c'est, je pense, un des problèmes qu'il y a sur le marché aujourd'hui, c'est que une fois qu'on veut arriver à développer une marque qui est, aujourd'hui, pour nous, c'est des accessoires de mode, on doit être concurrentiel envers le marché. Et si on propose un produit qui va tourner aux alentours de 100 francs, c'est clair que les ventes vont être impactées. Donc, c'est plus une nécessité qu'une décision.
La fabrication se fait donc en Asie. Exporter vous permet forcément de réduire vos coûts de production. Donc, il y a un gain d'argent. Mais est-ce que ça vous facilite vraiment la vie avec une logistique à distance ? Comment ça se passe ?
Ce qui est intéressant, c'est que on fait tout chez nous. Donc, c'est vraiment dans nos usines. Donc, on a transféré le savoir-faire. Donc, la qualité du produit n'est pas impactée. On a quand même un suivi tout au long du processus. Et c'est avec des équipes avec qui j'ai l'habitude de bosser. Donc, un peu tous les jours, on s'appelle, on a des calls. Donc, c'est pas impactant de travailler directement avec eux. C'est clair que je dois me déplacer assez souvent pour être sur place et puis des fois prendre des décisions là-bas parce que c'est plus rapide. Mais de toute façon, c'était une nécessité.
Vous vendez votre produit 40 à 50 francs, mais combien vous revient en fait le coût de production d'un bracelet ?
Ça, je peux pas exactement dire. C'est clair qu'après, il faut prendre en compte parce qu'on a des circuits de distribution, on a des retailers, donc chacun doit quand même prendre ses marges. Et pour un produit comme ça, en vendant seulement sur notre site e-commerce, c'est impensable. Donc on n'arriverait jamais à avoir... On dit tout le temps, quand on est sur Internet, on est global, mais la concurrence est telle que pour... avoir des clients, on doit des fois dépenser plus que ce qu'on gagne sur le produit. Donc voilà.
David Van Outeghem, au départ, votre produit a été pensé pour se fixer sur les Apple Watch. L'Apple Watch, c'est 12 millions de montres vendues l'année passée, environ 35 millions depuis son lancement en 2015, selon des estimations. Puisque le géant américain ne communique pas ses chiffres officiellement, est-ce que ça a été simple d'approcher Apple ?
Oui, ça a été relativement simple pour nous, étant donné qu'on a quelques contacts dans cette boîte. Donc, on a pu avoir accès à leurs équipes assez facilement. Et je trouve qu'ils sont assez ouverts dans le sens où ils regardent extrêmement attentivement ce qui se passe en fait sur le marché. Et si tout d'un coup, si on prend l'exemple des fours d'iPhone, si quelqu'un commence à faire des fours d'iPhone, ils ne vont pas essayer de le bloquer. Ils vont voir comment il grandit, et s'il grandit assez vite et qu'il fait des grosses quantités et qu'il voit que ça plaît, ils vont l'incorporer dans leur circuit de distribution et prendre des marges sur la vente de ces produits. Donc c'est plus pour eux aussi du win-win de voir ce qui se passe, de discuter, je pense, avec les marques. Et aujourd'hui, on est en discussion avec eux, mais pas pour tout de suite.
Vous pensez avoir une chance ? Où en sont les négociations avec ce géant américain ?
Je pense qu'on peut avoir une chance, c'est sûr, mais le problème qu'on a actuellement et que tous les fournisseurs, toutes les marques qui créent des bracelets pour l'Apple Watch, c'est qu'en fait, Apple n'a encore pas ouvert le robinet à ce niveau-là. Ils ont beaucoup de références internes avec leur bracelet officiel Apple Watch, et je pense qu'ils attendent le bon moment, donc de vendre assez de montres pour pouvoir ouvrir le robinet à d'autres marques. Donc nous, on est un peu, on va dire, en liste d'attente, mais je pense que oui, on a notre chance.
Vous parlez d'une liste d'attente, il y a beaucoup de gens sur cette liste ?
Je ne peux pas dire, je ne bosse pas chez Apple, mais je pense que beaucoup de marques les a contactés pour vendre des accessoires liés à l'Apple Watch.
À défaut d'Apple, est-ce que vous avez trouvé d'autres partenaires importants ?
Oui, donc là maintenant, on a commencé un partenariat aussi avec la marque Huawei. Donc c'est aussi un géant chinois qui fait des téléphones mobiles. On n'a pas beaucoup vu les montres, mais c'est quelque chose qui se vend extrêmement bien. Je crois qu'ils sont cinquièmes dans le classement des montres connectées avec plus d'un million de montres par année. Et là, on vend directement sur leur site internet officiel en Chine. Et on commence maintenant aussi dans certains de leurs magasins.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de commercialiser un produit dans le segment des montres connectées ?
C'était le début des montres connectées, et pour moi, c'est quelque chose qui va de toute façon évoluer avec le temps. C'est clair que beaucoup de gens sont un petit peu réticents par rapport au monde connecté. Et c'est vrai qu'en Suisse, peut-être tout l'écosystème qu'il y a autour n'est pas assez développé pour que les gens les mettent vraiment, à part pour le sport. Mais si on va, par exemple, aux États-Unis, ça devient un outil avec lequel on peut payer quand on va acheter un café au Starbucks, on peut contrôler sa maison à distance, on peut faire plein de choses. Donc ça devient quand même un outil qui est inclus dans la vie de tous les jours. Et on pourrait même, si on pousse un peu le bouchon plus loin, se dire que des assurances maladies, d'ici quelques années, nous proposent des rabais si on fait tant de pas par mois ou ce genre de choses. Et ça, pour moi, je pense que ça va se développer. Pour nous, c'était assez stratégique, je pense, dans le sens aussi où toutes ces marques de montres connectées ont des bracelets interchangeables. On peut facilement à la maison changer son bracelet.
Vous parliez de réticence, pas mal de gens, vous le dites, sont réticents, c'est pour ça que vous avez quand même créé ce bracelet aussi pour les montres classiques ?
C'est aussi parce qu'on a de la demande, et c'est vrai qu'on a un type de bracelet donc, qui est pour l'Apple Watch, et l'autre type de bracelet est compatible et avec les montres classiques, donc mouvement à quartz, mouvement automatique, ou avec certains types de montres connectées.
Vous êtes le directeur de la marque New Moon, vous n'avez que 30 ans et avez déjà parcouru le monde pour la firme Brasport, la Thaïlande, les États-Unis et puis la Chine. C'est là que vous avez eu l'idée de créer New Moon ?
L'idée est venue en Chine en parlant avec mon patron Alain Dubois. Pour voir où c'est qu'on pouvait aussi aller de l'avant, dans le sens où je crois que ça a aussi toujours été un peu son rêve de pouvoir vendre en direct donc des produits, et on a décidé de faire ça dans les bracelets montres pour rester aussi à notre place de fournisseur à la base, donc de pas aller dans la concurrence de nos propres clients.
Prochainement, vous allez déménager à Hong Kong. Le but, c'est de développer ce bracelet en Chine.
Le but, c'est de développer la marque, donc en global. Ça veut dire de développer de nouveaux produits, de gérer les circuits de distribution, d'être peut-être aussi plus proche de nos clients, étant donné qu'on a aussi pas mal de clients qui sont en Asie, mais je serai souvent aussi de retour, donc je vais faire l'inverse de ce que je fais maintenant. Au lieu d'aller tous les deux mois à Hong Kong et en Asie, je reviendrai en Suisse tous les deux, trois mois, et ce sera plus logique dans ce sens-là.
On parle de clients, vous avez vendu 15 000 bracelets New Moon depuis le lancement officiel en 2017. Vos principaux acheteurs, c'est qui ?
Donc, ça dépend, c'est vrai qu'avec ce bracelet, maintenant on vend depuis environ 6 mois sur notre site internet, donc on vend en Suisse, on vend dans pas mal de pays. Ça représente, ça je pense, une petite quantité quand même par rapport au global. Ensuite, c'est pas mal par des distributeurs. Donc c'est pour ce genre de produit, il faut qu'on rentre on peut pas aller sonner à la porte de tous les magasins et puis leur demander qu'ils achètent 10 bracelets, parce que ça prendrait une éternité pour une petite marque comme nous. Donc c'est de rentrer dans la grosse distribution avec des partenaires qu'on est en train d'établir. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que étant donné qu'on vend que le bracelet, c'est qu'on est en train d'essayer de pousser pour faire des co-branding avec des marques. Donc ça veut dire que certaines marques, on leur propose notre bracelet et en échange, ils communiquent notre nom. Donc on se fait aussi connaître. Là, on a commencé un co-branding il y a deux semaines avec une marque qui s'appelle Grey Hours. Et aujourd'hui, ils lancent un modèle de leur montre avec le bracelet, notre bracelet et notre marque derrière, directement dessus.
En 2016, vous avez commencé par proposer votre produit sur la plateforme Kickstarter. Donc vous l'avez promu beaucoup sur le web. Qu'est-ce que vous feriez sans le web aujourd'hui ?
Ça prendrait un peu plus de temps. Je pense, c'est vrai qu'il faut... Le web, c'est une plateforme qui est exceptionnelle, parce que ça permet d'avoir l'avis de personnes qui sont partout dans le monde très facilement avec ce genre d'outils. De toute façon, oui, on l'aurait quand même lancé, mais ça aurait peut-être pris un peu plus de temps pour les tests et puis avoir un peu l'avis favorable du public et puis le go.
Certains lancent des concepts innovants de bracelets de montre, d'autres ont pensé à décorer le nez des avions, et vous l'entendrez, les designers horlogers ont repris cette idée. On retrouve tout de suite Marie-Lise Saillard et sa chronique horlogère.
Pile à l'heure.
Le nose art est né pendant la Première Guerre mondiale, mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il a connu son apogée. Le nose art, c'est l'art de peindre le nez des avions. Et ça a inspiré la marque horlogère Graham de La Chaux-de-Fonds. Il faut dire que son fondateur, Eric Lotte, est un passionné d'aviation.
Les bombardiers à l'époque, d'abord les Américains et ensuite les Anglais et à la fin les Allemands, on peint des pin-up, mais c'était plutôt des lucky bringers. C'était un porte-bonheur, en fait, pour eux. Donc, ça voulait dire que si j'ai une pin-up, ça pouvait être la maman. Des fois, c'était la maman. Il y avait aussi des fois des amis, des girlfriends. Il y avait des fois des fantasmes. Il y avait des fois des femmes qui représentaient une ville, donc qui étaient un peu la reine de la ville. Don't sit under the apple tree with anyone else but me. Anyone else but me. Anyone else but me. Pourquoi les pilotes voulaient absolument peindre une femme et pourquoi pas autre chose, à faire à cheval? En fait, il y en a qui l'ont fait, mais ceux-là, semble-t-il, avaient moins de chance. Donc, ils avaient tous une tendance à quand même finalement mettre une femme et lui donner un nom. En réalité, quand ils volaient en formation, le chef de formation appelait plus les avions par le nom de code E22 ou I-44. Il les appelait en disant Sally, are you by my left? And Sarah, are you on my back? All right, are you still there? C'était un truc incroyable où les gars communiquaient en fonction du nom de l'avion entre eux.
coup, chez Graham, on s'est dit qu'on allait décliner le nose art dans l'horlogerie et mettre des pin-up sur des montres. Ouais, des filles généreuses et sexy comme Jessica qui est mariée avec un lapin nommé Roger. La première série de montres pin-up est sortie en 2017 et la marque a remis ça cette année.
Je pense que ces pin-up, comme elles sont peintes à la main dans le Jura, chez un nouveau fournisseur notamment, elles représentent un travail assez conséquent finalement par rapport au prix où on les vend. Et ça devient gentiment, on dit en anglais un collectible, ça veut dire une pièce que les gens ont envie de collectionner. Mais ça ne veut pas dire que toute la marque va faire des pin-up. Je pense qu'il faut bien comprendre que ça reste quand même limité à des séries limitées et ça reste limité à quelque chose d'un peu exceptionnel au sein d'autres collections classiques.
Les Chronofighter Vintage pin-up de chez Graham coûtent entre 5 000 et 6 000 francs.
Pile à l'heure.
Retour dans nos studios avec vous, David Van Outeghem, on en a parlé. Votre produit est une nouveauté, une innovation dans une entreprise de plus de 70 ans. Dans 70 ans, vous pensez que vous vendrez toujours des bracelets en caoutchouc ?
Non, je ne pense pas. On ne sait pas de quoi est fait. Dans 70 ans, ça fait un peu loin quand même. Peut-être dans 10 ans, oui, mais dans 70 ans, c'est un peu loin.
Votre business model à long terme, c'est quoi ?
Donc, c'est de créer une marque d'accessoires. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans les bracelets. On pense aussi pas mal à d'autres type d'accessoires. Je peux pas vraiment révéler aujourd'hui ce que ce sera, mais aussi en fonction de la distribution qu'on est en train de développer. Mais c'est clair que le but, c'est d'être une marque qui développe des accessoires innovants et d'avoir du plaisir à développer ce type d'accessoires, de faire les brainstorming avec les collègues. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui nous botte et qu'on adore faire.
Comment est-ce que vous allez faire pour éviter que votre produit ne soit qu'un effet de mode ?
Il y a plusieurs moyens, c'est de continuer à innover. Moi, je pense que aujourd'hui, les marques, le luxe 2.0 est défini par le design, qui est très important et qui doit être pris très au sérieux, et par l'innovation. Donc, de continuer d'innover, de trouver des nouvelles choses, de ne pas rester assis sur son savoir-faire et ses acquis, mais de continuer à aller de l'avant et de rechercher des matériaux, des fournisseurs, des partenaires avec qui on peut ensemble avancer, on a les mêmes buts.
Vous êtes aujourd'hui sur le caoutchouc. Ce que vous dites, c'est que vous pourriez partir sur une autre matière première ?
Oui, pour le prochain bracelet, je ne vais pas vous le cacher, on est en train de développer un bracelet donc, qui sera fait et de cuir et de FKM, aussi avec une fermeture innovante qu'on est en train de tester et de développer. Donc tout à fait, c'est de trouver les belles matières, les nouveautés, les choses qui n'ont pas encore peut-être été trop vues avant ou pas été assez exploitées dans les gammes qu'on veut. Donc de mélanger ça un petit peu avec notre marque en créant le buzz comme ça en fait.
L'émission économique, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, David Van Outeghem, d'être passé nous parler de votre marque New Moon et bonne soirée.
Merci Alizée, bonne soirée à vous aussi.
Et la semaine prochaine, Alexandre Steiner sera en direct du Salon des moyens de production microtechnique de Moutier avec plusieurs invités. D'ici là, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la page de l'émission Sortie de boîte sur notre site internet. Excellente soirée, à tout bientôt.
Sortie de boîte.